Stéphane Alix, bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes fondateur de l'INRES, vous êtes écrivain également. Vous vous intéressez notamment aux phénomènes paranormaux et en particulier, vous avez dirigé la collection Grande Enquête chez les éditions Dervy, qui ont publié Histoire extraordinaire, des enfants se souviennent de leurs vies antérieures. Et puis également, Une vie avant la vie, 40 ans d'études scientifiques sur les cas de réincarnation d'enfants. Vous avez également, dans le cadre de votre émission Enquête extraordinaire, fait un reportage sur la réincarnation qui a été diffusé sur M6. Et puis plus récemment, vous avez publié, donc en octobre 2017, Lorsque j'étais quelqu'un d'autre chez Mama Édition,
Oui, bonjour.
dans lequel vous parlez de votre cas personnel de réincarnation. Donc, avant d'en arriver à votre cas personnel, vous allez nous expliquer cette expérience. Vous avez quand même eu tout un parcours où vous êtes intéressé à ces cas d'enfants, et puis après, la vie vous a amené à vivre une expérience plus personnelle.
Oui, bah, j'ai eu la chance effectivement de rencontrer les chercheurs, notamment américains, qui s'intéressent à ces sujets de mémoire de vie antérieure d'enfants en bas âge. Jim Tucker, qui est aujourd'hui le continuateur du travail de Ian Stevenson, qui avait publié ses livres Réincarnation et biologie notamment, qui s'intéressait voilà, de façon très très concrète à l'examen de récits d'enfants en bas âge ayant des souvenirs de vie antérieure. Et ça, pour m'y intéresser toujours aujourd'hui, je recueille assez souvent des récits de parents qui me disent « Mais c'est curieux, mon fils, ma fille, quand il avait 3 ans, il m'a dit un truc vraiment bizarre, vous n'êtes pas mes parents », ou des choses comme ça. Et je crois que ces récits sont beaucoup plus répandu qu'on l'imagine, sauf qu'on ne les entend pas. On prend ça pour des délires d'enfant et on n'y accorde aucun crédit. Et ce qu'a fait Jim Tucker et ce qu'il a publié dans ses livres récents, c'est justement des études approfondies sur ce type de message, sur ce type de mémoire. Et il semblerait, voilà, il semblerait de façon tout à fait probante que quand les enfants sont en très bas âge, dans les premières années de la vie, l'individu n'est pas suffisamment cristallisé, structuré, et permet une espèce de perméabilité avec des souvenirs qui semblent venir d'ailleurs, qui semblent venir d'une vie d'avant. J'ai eu la chance de rencontrer notamment la famille Leninger, qu'on a tourné pour Enquête extraordinaire, et de faire publier en France, dans cette même collection chez Dervy, le livre de leur enquête. James était un petit enfant qui avait des cauchemars insupportables, qui ont vraiment fait flipper ses parents pendant des semaines et des semaines. Ça les a rendus attentifs, ça les a rendus très soucieux de savoir ce qui se passait, parce que leur enfant se réveillait toutes les nuits pratiquement en hurlant avion en feu, avion en feu, avion en feu, et en se débattant. Et en étant attentifs au discours de leur fils, ils ont pu laisser émerger et capter, au moment où ça émergeait de façon spontanée, des petites phrases, des petits détails un peu bizarres que disait leur fils, où il parlait d'un avion, d'un porte-avions, de plein de choses qui ne semblaient pas avoir été des choses qu'il aurait pu voir ni à la télé, ni dans son entourage. En fait, ce qui m'a vraiment marqué dans la rencontre avec les Leninger, c'est l'intelligence de ses parents, qui sont des Texans plutôt chrétiens, mais qui justement, alors que ce qui semblait se passer avec leur fils pouvait remettre en question leurs croyances, ont laissé un peu ça de côté pour essayer simplement d'être à l'écoute et avec bienveillance de leur enfant. Et c'est ce qui a permis à James d'exprimer plein plein de choses que le père a vérifié par la suite. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert que leur fils était très vraisemblablement la réincarnation d'un pilote tué pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique.
Et alors justement, vous-même, alors vous n'êtes plus un enfant, mais vous avez vécu cette fois-ci à l'âge adulte, une mémoire de vie antérieure, c'est ça exactement? Et puis ensuite, vous avez monté cette enquête qui a abouti à la parution de ce livre lorsque j'étais quelqu'un d'autre.
Oui, alors moi c'était complètement inattendu. Hein. C'est arrivé effectivement, j'avais 45 ans, il y a quelques années de ça. Le seul point commun que je pourrais avoir avec un enfant, c'est qu'en fait c'est arrivé à un moment de ma vie où j'ai vraiment fait un bilan très fort, très fondamental, pour essayer de faire le point où j'en étais. Je suis parti en retraite, très loin, en Amazonie. Je me suis coupé de tout, plus de téléphone, plus d'emails, plus de contact avec le monde extérieur, pour essayer vraiment d'avoir un vrai travail d'introspection. Donc c'est ce qui m'a peut-être permis de faire sauter des barrières qu'on a tous à l'âge adulte, qui nous empêchent de nous connecter à ces dimensions de notre conscience. Et pendant une méditation, en pleine journée, alors que j'étais réveillé, j'avais juste les yeux fermés, j'ai vu apparaître à mon esprit une scène de guerre très précise et puis surtout très chargée d'émotions. Et dans cette scène de guerre, j'ai tout de suite identifié un homme que je savais s'appeler Alexander, que je savais porter le grade de Obersturmführer, dont je savais que c'était un SS. Et je vois cet homme qui me regarde, qui agit sur un terrain de guerre et qui se prend un éclat d'obus à la gorge. La scène est extrêmement intense. Je décide de la laisser vivre. C'est-à-dire que j'ai les yeux fermés, je suis conscient, mais je pourrais arrêter en me levant et en arrêtant tout de suite ça. Mais je décide de laisser vivre la scène pour voir jusqu'où ça m'emmène. Et ça va durer près d'une demi-heure dans laquelle je vais aussi avoir son nom de famille et une foule de détails précis sur d'autres scènes, des scènes en civil, la scène de mort qui se répète à plusieurs reprises. Et quand finalement ça s'arrête, pour moi, c'est moi qui j'ai vraiment l'esprit très cartésien, donc je privilégie immédiatement plutôt l'espèce de message que mon inconscient m'aurait envoyé. Il me fait faire un rêve éveillé, il m'envoie une scène de guerre. Moi, je suis devenu reporter de guerre très jeune. Bon, c'est un message que je dois comprendre. À tel point que quand je découvre en revenant en France quelques semaines après que dans les listes de soldats SS que je découvre, il y a effectivement un type qui s'appelait Alexander Hermann et qui portait ce grade, j'y vois une coïncidence. Je suis très bourrin des fois, hein. Et il va falloir plus d'un an avant que des circonstances de la vie fassent que j'ai envie de recommencer cette recherche, puis peut-être d'aller un peu plus loin. Et de fil en aiguille, je tombe sur un historien qui me dit, mais est-ce que vous avez essayé de demander un dossier militaire sur cet homme? Et j'ai dit, mais ce type était lieutenant, donc c'est rien, quoi. Je vois pas pourquoi il existerait un dossier. Et cet historien me dit, mais si tous les officiers SS, donc ça commence à Obersturmführer, avaient des dossiers et la plupart nous sont encore parvenus aujourd'hui, ils sont accessibles. Donc là, je fais des démarches auprès des archives et puis quelques jours après, j'ai la surprise de découvrir qu'il y a un dossier qui existe sur cet homme, qui contient une 80 documents à peu près. Et en le réceptionnant, ce dossier, je découvre qu'il contient son acte de décès. Et là, c'est vraiment le jour pour moi où je prends un 38 tonnes de face, parce que je découvre que dans son acte de décès, il est mort d'un éclat d'obus à la poitrine et au cou. Et là, c'est plus une coïncidence. Là, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui me concerne. J'ai fait une rencontre. Est-ce que c'est avec ma vie d'avant? Est-ce que c'est avec une mémoire autre? Je sais pas. Je suis juste frappé par le fait que de toute ma vie, j'ai été obsédé par la guerre, par la violence, que j'ai voulu devenir reporter très très jeune pour comprendre le mal, pour comprendre la guerre. Et c'est ce qui me fait dire que peut-être que cette rencontre avec cet Alexander Herrmann est peut-être une rencontre avec une part de moi-même. Et je vais commencer l'enquête. Je vais commencer l'enquête très concrètement en essayant d'avoir plus d'éléments factuels sur lui, en essayant de savoir s'il a une famille qui est encore vivante quelque part en Allemagne. J'ai vu une petite fille, moi, dans cette vision. Donc cette petite fille devient une espèce de truc qui m'obnubile en me disant, mais il a une fille, il a une fille, il faut que je la trouve. Et donc je vais partir en Allemagne, je vais partir dans sa ville de naissance qui est Plauen, sur la frontière tchèque pratiquement. Je vais découvrir un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui des descendants d'Alexander. Je ne veux pas tout révéler parce que ça serait gâcher un peu
Tout à fait.
le contenu du livre. Et je vais aller jusqu'en Russie, là où il est mort, en octobre 41. Et ce qui est curieux, c'est qu'il est mort le 20 octobre 1941. Il a 77 ans jour pour jour.
Étonnant, hein, comme synchronicité.
Oui.
Et vous me disiez même que votre livre, effectivement, est paru.
Le 20 octobre dernier, il y a pile un an,
Voilà.
jour pour jour.
Bon.
Et ce qui est curieux, c'est pour rebondir un petit peu sur le thème de votre émission, c'est que voilà, la question sous-jacente à cette enquête, pour moi, ça a été de savoir si Alexander était ma vie d'avant, qui est une question assez basique qui pourrait se répondre par oui ou par non. Et en fait, au fil de mon enquête, j'ai découvert que c'était compliqué de trancher de façon absolument certaine sur cette question et qu'en définitive, c'était peut-être passer à côté de la chose la plus importante de cette expérience que j'ai vécue. Parce qu'au final, qui c'est Alexander Herrmann? C'est un SS, c'est un salopard, c'est un type qui s'est laissé embarquer comme des millions d'autres Allemands à cette époque-là dans une folie absolue de haine, de colère. Et d'une certaine manière, c'est cette espèce de glissade psychologique qui a été celle de l'Allemagne à un moment de l'histoire. Elle est d'actualité. Elle est d'actualité aujourd'hui, hier, sans doute demain, malheureusement. Il y a toujours des moments où, sur notre planète, de façon collective, on a tendance à faire les mauvais choix. Et par flemme, on se laisse aller à la facilité en disant, bon, bah, finalement, si ça va pas bien dans ma vie, c'est la faute des autres, c'est la faute des étrangers, c'est la faute de telle catégorie, professionnelle ou sociale ou culturelle. Et c'est dans ce sens que j'ai voulu mener cette enquête et puis surtout la publier sous forme de livre, parce que je pense qu'on a tous en nous des mémoires différentes. On a l'impression, quand on se regarde dans la glace, de voir qui on est. Et moi, j'ai le sentiment, pour travailler sur la conscience et sur la mort depuis 15 ans, que précisément quand on se regarde dans la glace, on ne voit pas qui on est. On voit une espèce d'enveloppe qu'on occupe très temporairement et auquel on s'identifie. Et en s'identifiant, on est dans une forme d'aveuglement, parce que notre être éternel, notre véritable conscience, celle qui va survivre à notre mort et qui vit avant notre naissance, c'est précisément pas ce visage qu'on voit dans la glace. Il y a quelque chose en nous qui est éternel, mais ce quelque chose en nous, on s'y connecte trop peu dans notre quotidien. On l'oublie dans notre quotidien. On met en priorité le fait de trouver un bon boulot, le fait de se faire plaisir, le fait de consommer, le fait d'être un être humain fonctionnel dans cette société. Et on en oublie peut-être la raison pour laquelle on s'est incarné. On en oublie peut-être la raison pour laquelle on vit aujourd'hui. Et si on vit, si notre existence a un sens, à mon avis, mais là je vous livre une opinion personnelle, hein, c'est plus du journalisme, là c'est vraiment mon cheminement et ce qui m'a amené à comprendre. Si notre existence a un sens, c'est dans notre capacité, nous, aujourd'hui, dans le corps qui nous est offert, de nous libérer, de nous soigner, de guérir une part de nous, une part de notre ombre, une part des choses qui n'ont pas été guéries dans nos vies passées, et peut-être par cet acte-là, de participer aussi un petit peu à la guérison du monde. C'est vraiment ce que j'ai ressenti très intuitivement à travers toute cette enquête, au-delà de l'enquête presque policière proprement dite que j'ai faite depuis les banlieues de l'Est de l'Allemagne jusqu'à la Russie, c'est aussi cette idée qui est sortie et qui m'a paru importante. Moi, je suis fasciné par cette question de la conscience depuis que j'ai ramassé le corps de mon frère mort dans un accident de voiture en Afghanistan il y a 17 ans. Je suis obsédé par ça, par cette question de savoir ce qu'on fait ici, pourquoi est-ce qu'on meurt, pourquoi est-ce qu'on vit. J'ai eu le sentiment de découvrir que voilà, notre existence avait vraiment un sens, mais pour ça, il faut faire un pas de recul, il faut faire un pas de retrait et arrêter de s'identifier avec ce monde de matériel et de matière qui nous fascine tant et auquel on s'identifie trop. Pardon, je pars un petit peu sur une route de traverse peut-être, mais ça me semblait important d'être précisé.
C'est très intéressant, puisqu'effectivement, dans cette émission, on essaye d'explorer la conscience, les états de conscience. Et justement, la question que je voulais vous poser, c'est que vous apprennent, enfin, que nous apprennent ces cas et que vous nous apprend votre cas, que vous a appris votre cas sur l'au-delà. Est-ce que vous avez pu tirer des conclusions? Et manifestement, c'est ce que vous venez de nous révéler.
Oui, j'ai vraiment le sentiment que nous sommes, vous, Olivier, moi, Stéphane, et puis tous les gens qui nous écoutent en ce moment, on est bien plus que cet être de chair et d'os qui existe depuis quelques décennies. On est un carrefour de mémoires qui viennent peut-être de nos vies antérieures ou de vies parallèles, qu'elles soient antérieures ou parallèles, je ne sais pas, elles se situent à mon avis dans une autre dimension de temps. Et on est aussi le carrefour d'une histoire familiale. On porte les blessures, mais aussi les joies de nos ancêtres. Donc en fait, cet être que l'on croit individuel et que l'on est souvent tellement fier d'habiter et de regarder dans la glace en se trouvant beau et content de soi, en fait, on est simplement une espèce de rencontre de plein de gens, de famille. On est une famille à nous tout seuls. Et une famille, bah, c'est fait de drames, c'est fait de déni, de secrets, de zones d'ombre, de zones de lumière aussi, de joie et de bonheur. Et je pense que avoir une lucidité sur ça, s'offrir des petits moments dans l'existence où on s'accorde la possibilité de prendre un peu de retrait, parce qu'il ne s'agit pas non plus de commencer à tout envoyer bouler et à partir dans un ermitage ou au fin fond d'un monastère et de tout quitter, femme et enfant, au boulot pour se trouver. Ce n'est pas nécessaire d'être aussi radical, mais on peut, dans notre quotidien, en vivant normalement, en étant un être humain intégré dans cette société, plus ou moins bien, on peut aussi créer ces petits espaces de solitude, de silence, de retraite, qui sont les moments où on peut rencontrer les véritables dimensions de sa conscience. Parce que sinon, dans notre quotidien, regardez comment sont nos journées. Je ne sais pas comment sont vos journées à vous, Olivier. Moi, je sais qu'elles sont encombrées de beaucoup de choses, d'emails, de téléphones, de rencontres, de choses passionnantes qui sont une vie professionnelle. Mais quand je porte un recul sur ces journées entières, je m'aperçois qu'il y a rarement 5 minutes d'affilée où je ne fais rien, où je suis là à bâiller aux corneilles, à simplement être disponible pour une dimension de ma conscience, pour un monde invisible qui ne s'exprime jamais. Et on se plaint souvent de ne pas avoir d'intuition ou de vivre dans un monde qui n'a aucun sens, etc. Mais quand est-ce qu'on fait une pause pour vraiment écouter qui on est vraiment, pour vraiment offrir une voix à notre conscience, pour vraiment se connecter à ces dimensions qui nous constituent? Donc en fait, en définitive, si j'ai une leçon à tirer moi de toutes ces années d'enquête sur la mort, sur la vie après la mort, sur la vie avant la mort, sur toutes ces dimensions, c'est que, un, je suis absolument certain que nous sommes, si ce n'est éternel, nous sommes beaucoup plus vastes que les simples êtres de chair et d'os que nous expérimentons aujourd'hui. Nous avons vécu avant, nous continuerons à vivre après. Une dimension en nous continuera à vivre après. Nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour être lucides, pour accroître la lucidité sur les mécanismes émotionnels qui nous font agir dans notre vie au quotidien. Et tout ça a du sens. Tout ça a du sens. Et ce sens se trouve dans le silence.
Merci beaucoup, Stéphane Alix.
Merci à vous.